On va faire plusieurs lectures d'ailleurs, et la première de ces lectures, nous la trouverons dans le Nouveau Testament, comme les autres d'ailleurs. C'est le 1er novembre, c'est ce que je disais il y a un moment, et à cause de cela, je me suis dit que c'était peut-être pas juste de rendre simplement un hommage. Pas bien compris là. Ah oui. C'est parce qu'on me faisait ça. Vous comprenez quoi, moi, si je vous fais ça? Si au moins vous avez fait ça, vous auriez dit un bruit qui court, mais là, c'est même pas ça. Donc, il y a des, on va pas dire un club, mais en tous les cas, des frères et sœurs qui ont décidé de marcher la semaine, au moins une fois par semaine, sortir et faire un petit peu de balade. Alors, il faut avoir une bonne condition physique quand même, parce que vous marchez entre 2 et 3 heures. Donc, si vous êtes intéressé, il y en a 15, 18 qui ont été la dernière fois en balade. C'est dans l'après-midi, c'est une fois par semaine. Vous voyez également Fana pour cela. Merci Fana d'y avoir repensé. Je vous disais, 1er novembre, on célèbre les défunts. En tous les cas, le monde catholique célèbre ses défunts. Et je me suis dit que c'était justice que de célébrer plutôt la vie. Et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, c'est parce qu'on est bien vivant qu'on a décidé de nous rassembler. Et puis, de fil en aiguille, mon esprit a été un petit peu plus loin. Et je me suis dit que ce qui nous rapproche bien évidemment de Jésus et de l'œuvre accomplie, c'est qu'elle n'est pas finie, elle est accomplie totalement, mais elle est en cours. Et bientôt, un événement exceptionnel va se produire, c'est le retour de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai voulu m'arrêter sur le retour de Jésus et ce que cela signifie. Alors on va lire trois textes. Le premier dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, et nous lirons à partir du verset 50. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4. Première lettre de Paul aux Thessaloniciens, c'est un petit peu plus loin, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Et puis je ne pouvais pas terminer sans ce qui est écrit à l'écran, ce dernier verset, Apocalypse chapitre 22, et à partir du verset 17, Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. » Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. On va revenir un peu plus précisément dans quelques moments sur précisément cet événement, le retour de Jésus. Mais je me suis arrêté quand même à la fête actuelle, la fête de la Toussaint. Et je me dis que, dans le fond, la fête de la Toussaint a été instaurée, la fête de tous les saints, la fête de la Toussaint, a été instaurée, savez-vous, à peu près à quelle période ? Non. C'est un pape qui a inauguré ça, et on est dans les années 600 et quelques. Donc ça n'existait pas avant. Et à un moment donné, on a inauguré cette nouvelle fête religieuse, et l'idée était d'honorer la mémoire des martyrs chrétiens, au départ. Tous ceux qui avaient été martyrisés, on voulait les honorer de cette manière-là. Vous savez que dans le credo catholique, il y a un sens sur le mot « un saint ». Aujourd'hui, je peux vous dire que vous êtes tous des saints, parce que vous avez été rachetés, justifiés, sanctifiés. Donc un saint, c'est un croyant. Mais dans cette idée-là, le saint est déjà mort. Et on l'a, pour quelques fois d'ailleurs, canonisé. Et c'est quelqu'un qui aura eu une vie exemplaire. C'est quelqu'un même de qui on pourra dire qu'il aura accompli quelques miracles. Bref, sa vie aura été à part. Et donc, on en fait un saint. Les saints que vous connaissez et dont on entend parler. D'ailleurs, l'Église est toujours dans cette démarche de canoniser, hein, de faire des saints, de rendre un honneur particulier à quelques-uns. Mais à cette époque-là, l'idée, c'était d'honorer tous les martyrs, qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas, connus et inconnus. Dans cette idée-là, c'est quand même assez surprenant parce qu'on imagine que certains avaient plus de mérite que d'autres. Et c'est là où on dévie un petit peu, c'est là où on sort de ce que la Bible enseigne, parce que la Bible n'a jamais enseigné cela. Ce qui sera étonnant, c'est que, au départ, le 1er novembre se célébrait le 13 mai. Vous entendez ? La fête de la Toussaint, ce n'était pas le 1er novembre, c'était le 13 mai. C'était d'ailleurs assez proche de la Pentecôte, de la Pâque. Et on comprend d'ailleurs dans l'idée, ça restait un petit peu dans l'idée de ce que Dieu avait fait, de la vie qui avait été donnée, etc. Et puis à un moment donné, 200 ans plus tard, et on n'est peut-être pas loin de Charlemagne là, 200 ans plus tard, ça a été décalé. On a inauguré une chapelle à Saint-Pierre de Rome un certain 1er novembre. Et on a décidé que la Toussaint allait s'attacher au 1er novembre. Ça, c'est, on va dire, la version officielle. La version off est un peu moins claire. La version off semble rapprocher la fête de la Toussaint au 1er novembre à une fête païenne connue. Et cette fête païenne était justement célébrée dans toute l'Europe, et notamment par le monde celte, hein, était célébrée le 1er novembre. C'était un jour que l'on déclarait sombre, obscur et mort. C'était l'entrée, si vous voulez, dans ce que nous on appellerait l'hiver, hein, dans le fond, les jours raccourcissent, il fait plus froid, il y a de l'obscurité, et toutes sortes de pratiques mystiques, religieuses, idolâtres. J'aime autant vous dire que dans les traditions païennes, il y en a des croyances et il y en a des idées toutes plus farfelues les unes que les autres, mais on s'y attache, hein. Et quelque part, en faisant glisser cette fête au 1er novembre, on a essayé de récupérer ces Celtes païens pour en faire de bons catholiques, et on a associé cette fête et on a voulu qu'ils s'associent à cette célébration. Je pense que le rapprochement a été mauvais, ça n'a pas été bon, parce que premièrement, ça crée un peu de confusion, et puis chacun est venu comme dans une auberge espagnole avec ce qu'il avait, et chacun a rajouté un petit peu dans sa croyance, et j'aime autant vous dire que ça faisait un sacré mélange. Et que dans le pot, si une chose y était peut-être, comme disait le prophète, c'était peut-être la mort. Hein. Il n'y avait rien d'autre dans le pot. C'était certainement pas terrible ce qu'on pouvait y trouver à l'intérieur. Mais voilà ce qu'on a fait. On entre dans une saison sombre. Vous avez remarqué comme cette fête a dérivé, a pris un autre nom. Et on a appelé la fête de tous les saints, la fête d'Halloween. Ça a dérivé jusqu'à cette fête-là. Vous avez vu comme c'est macabre et sombre. Cette fête-là. D'ailleurs, cette année, plus que d'autres années, j'ai été acheter, ça fait quelques semaines, hein, mais quand j'ai été acheter le pain, vous savez que dans les magasins, il y a des décorations, et j'imagine qu'on fait ça avec, je sais pas, de la fibre, du coton, quelque chose comme ça, on imite l'étoile d'araignée comme ça. C'est la première année que ça m'arrive. Quand je suis rentré à la boulangerie pour aller chercher le pain, j'ai même touché l'étoile d'araignée qui tombait du plafond, c'est pour dire qu'elles étaient basses, hein. Vous imaginez, c'était pas que... En général, l'étoile d'araignée, c'est dans les coins, vous avez remarqué. Si ça descend, c'est que, bon, ça a pris son temps. Et là, il fallait éviter ça. C'est la première fois que je m'aperçois que c'est autant décoré dans cet endroit-là. Et chose incroyable, le personnel s'était grimé. C'était grimé, ils avaient mis un habit, vous savez, les habits de squelette. Donc, ils étaient habillés en squelette. La tête toute blanche, les yeux tout noirs, avec les fausses dents. Mais ça a de quoi faire peur, non? Vous imaginez celui qui va avec son petit enfant pour aller acheter du pain? Alors tout le monde fait comme vous, on en rigole. Mais c'est terrible dans le fond, c'est terrible. Parce que petit à petit, à dose homéopathique, mais comme ça fait longtemps, je pense que le produit est devenu efficace, on s'endort. Et on ne se rend pas compte que derrière cette idée sombre et noire, il y a quand même des vérités spirituelles, des vérités qui ne sont pas mystiques, qui sont spirituelles et diaboliques. Et on s'habitue à côtoyer la mort, on s'habitue à côtoyer le sombre, on s'habitue à côtoyer... Alors on est encore loin, évidemment, derrière les anglo-saxons, et pourvu qu'on les rattrape jamais. Mais là-bas, il y a des défilés. Défilés de zombies, défilés de morts, etc. Il n'y a pas assez de morts en vrai. Il faut en fabriquer en faux. Il n'y a pas assez de souffrance, il n'y a pas assez de douleur qui faille encore. Alors allez savoir si c'est pour s'exorciser, j'en sais rien. Mais la réalité, c'est que la confusion pour rejoindre cette fête que l'on a voulu rassembler, rapprocher du 1er novembre, cette confusion et cette espèce d'assimilation, et toute forme de confusion et d'assimilation entre la foi, le message biblique et toutes les croyances que les hommes ont inventées un jour et ont portées jusqu'à aujourd'hui, l'assimilation de ces choses-là, ça n'a jamais fait le lit de la foi. Jamais, jamais, jamais. Ça a plutôt enterré les gens, plutôt que ça les a assis sur quelque chose de solide. Et voilà pourquoi je me suis intéressé au retour de Jésus-Christ quand même, parce que je voudrais que l'on se souvienne que si le monde fête la mort, nous devons et nous voulons fêter la vie. C'est bien plus intéressant. Si certains, au travers de cela, cherchent à apprivoiser la mort, je préférerais qu'on apprivoise la vie. Je préférerais qu'on apprivoise la vie. Vous savez que c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a franchis. Et cette liberté nous a arrachés de l'esclavage, nous a sortis de l'esclavage, et en fait nous permet... d'apprivoiser la liberté, cette nouvelle vie que Dieu nous donne, pour ne pas retomber dans les mêmes travers et ne pas mourir à chaque faux pas et ne pas nous égarer dans toutes sortes de fautes, d'erreurs, de péchés et tout ce qui détruit notre être. Le monde nous propose la mort parce qu'il n'a rien d'autre à proposer. La vie, il voudrait bien, mais il n'y arrive pas. Combien de gens désespérés, je pense qu'aujourd'hui, en Russie, on pleure, et dans bien d'autres endroits, on pleurera peut-être demain et après-demain. Quelle tragédie encore n'arrivera pas. Il y a beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Et vous voulez qu'on en rajoute encore de la mort ? Moi, je préfère qu'on parle de la vie aujourd'hui. Même si c'est le 1er novembre, je veux vous parler de celui qui est vivant, de Jésus-Christ. Et Jésus revient bientôt parce qu'il est vivant. Et Jésus a dit qu'il reviendrait parce que c'est là la réalité de l'Écriture. Et j'aimerais que l'on soit persuadé de ces choses-là, convaincu de ces vérités. C'est écrit et annoncé, Jésus revient. Alors êtes-vous concerné par la chose ? Et on va essayer de voir ensemble assez rapidement quelle sera la chronologie de ces événements. Plus notre monde célèbre la mort, plus il s'éloigne du vivant et de la vie, c'est sûr. Aujourd'hui, quand on parle de l'Évangile, quand on parle de la foi, les gens ne comprennent même plus. C'est comme si on parlait une autre langue. Ce n'est pas de l'hébreu, hein. Dans notre Bible, c'est en français. Mais ça semble compliqué, ça semble incompréhensible. Mais regardez, on les nourrit, on les gave, on les satisfait, pour pas dire 24 heures sur 24, mais je ne sais pas, peut-être 10 heures par jour, quand on regarde le nombre d'heures qu'on est capable de passer devant une télévision ou à l'écoute d'informations diverses, on nous gave de mort, on nous parle de la mort, on apprivoise la mort, et tout cela pour nous faire croire que l'enfer n'existe pas. Et moi, j'aimerais vous dire que la réalité, c'est que Jésus revient et l'éternité arrive. Et dans l'éternité, il y a le ciel, il y a l'enfer. Il y a le salut, il y a la perdition. Il y a le salut éternel et il y a la mort éternelle. Il y a la vie éternelle et de l'autre côté, ce qui sera éternel aussi, les tourments éternels. Alors, on va s'intéresser quelques instants sur cette idée du retour de Jésus. Ma première question, elle n'est pas innocente, hein. Y pensez-vous souvent au retour de Jésus-Christ ? Au début, j'avais écrit « Y pensez-vous ? » Mais je savais que vous alliez me dire oui. Donc, j'ai rajouté « souvent ». Et je me suis dit « Là, il y en a beaucoup moins qui vont me dire oui. » Mais en fait, peut-être que j'aurais dû écrire « Y pensez-vous tous les jours ?» Dites la vérité. Et dites « Je le jure ». Ouais. Pourtant, que dit l'Écriture ? Dans l'évangile de Matthieu, vous avez vos Bibles, on va un petit peu potasser. Hein. Évangile de Matthieu, chapitre 24. Évangile de Matthieu, chapitre 24. Et à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte à tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit, à quelle heure de la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. On n'y pense pas toujours, et malheureusement, on ne peut rien y faire, parce que c'est écrit. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, et il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Remarquez, l'Écriture nous rend un service, elle n'a pas dit le jour où vous n'y penserez pas, juste l'heure. Alors même si vous y pensez tous les jours, vous n'y pensez pas toutes les heures peut-être. Mais le fait est que ça devrait quand même nous interpeller, parce qu'il me semble qu'on n'y pense peut-être pas toujours. Pour quelle raison je dis cela ? Parce que si on y pensait tous les jours, on serait certainement un peu moins léger, un peu plus consacré dans notre marche avec Dieu. Il y a des priorités, on a tous des priorités dans notre vie. Et dans le fond, on s'aperçoit que selon la priorité que l'on a devant nos yeux, on va consacrer plus de temps à une chose plutôt qu'à une autre. Et pourtant, ce qui doit, ce qui devrait, ce qui pourrait être au centre de toutes nos préoccupations, ce n'est qu'une chose, Jésus revient. Et parce que Jésus revient, quel ne doit pas être notre témoignage, évidemment. Parce que si je ne suis pas vigilant par rapport à cet événement incroyable, croyez-vous que celui qui me voit vivre sera plus vigilant ? Certainement pas. Pour peu qu'il ne soit pas croyant, ça ne va pas l'interpeller. Ne soyons pas légers, ne soyons pas distraits. Un peu plus loin, je ne l'ai pas lu, mais du verset 44 au, du verset 45 au verset 51, il est parlé notamment d'un serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses biens. Le maître s'en va et pendant ce temps-là, le serviteur s'occupe de la maison. Il ne sait pas quand est-ce que le maître va revenir. Mais le maître lui a dit, tu t'occupes bien de la maison comme si j'arrivais dans une heure. Donc tout est prêt. À toute heure du jour et de la nuit, tout est prêt. J'ai connu quelqu'un qui, pendant quelques années de sa vie, a été skipper sur des bateaux. Et donc, il se mettait au service de personnes qui, soit avaient des bateaux et voulaient, à un moment donné, faire une traversée en Méditerranée, l'Atlantique, etc., soit voulaient louer un bateau pour aller d'un endroit à un autre. Et donc, ils n'étaient pas marins, donc ils louaient un bateau et un skipper. Mais en fait, il a travaillé plusieurs mois sur un bateau qui appartenait à quelqu'un et la personne lui disait « Je veux être capable de partir n'importe quand. » Eh bien, pendant des semaines, des mois, il était à quai et il s'ennuyait à mourir. Et puis un jour, le patron arrivait, un matin ou un soir, il arrivait et il disait « Allez, on embarque dans une heure, il fallait que tout soit prêt. » Vous imaginez s'il avait oublié de peindre, de régler, de vérifier les cordages, etc. On aurait perdu 4 jours. Il était payé pour que ce soit toujours prêt au départ. Frères et sœurs, il me semble que ce serviteur a bien honoré sa tâche, tandis qu'un autre l'a mal fait, parce que la Bible dit qu'un autre serviteur méchant se disait en lui-même, « Mon maître tarde à venir. » Et comme je m'aperçois qu'il ne revient pas, ben il a pris ses aises et il est devenu le patron. Le patron en dessous du patron. Et il a commencé à maltraiter les autres, etc. Sauf que la Bible dit que ce méchant serviteur verra pointer le patron au moment où il ne s'y attend pas, et alors là, gare à lui. Quelque part, Jésus revient, on ne sait pas quand, mais on doit toujours être prêt. On doit toujours être prêt à sa venue. C'est peut-être avant la fin de notre culte, c'est peut-être ce soir, ce sera peut-être demain, ce sera peut-être dans 25 ans. Ne vous refroidissez pas dans la joie de servir Dieu et de le servir avec joie et patiemment. Dans une lettre de l'apôtre Pierre, certains se moquaient. Certains disaient « Tout demeure comme dès le commencement, il n'y a rien qui a changé. Vous parlez toujours du fait que Jésus revienne, mais on ne l'a jamais vu revenir. Depuis le temps, depuis que nos pères nous ont raconté cette histoire, rien n'a changé. » Mais l'apôtre Pierre dit « Le Seigneur ne tarde pas. Il ne tarde pas. » dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience. Alors si Jésus n'est pas encore revenu, c'est par amour, par bienveillance, par patience, et nous le verrons tout à l'heure, c'est parce que la totalité de ceux qui doivent rentrer dans le salut ne sont pas encore rentrés. C'est pour cela. Mais la réalité, c'est que nous devons continuer à servir avec joie. J'ai connu des personnes qui aspiraient au retour du Seigneur tout de suite. J'en ai connu quelques-unes. Elles m'ont dit « Ah, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils reviennent là maintenant ?» Mais la seule raison, c'est qu'ils n'en pouvaient plus de leur vie. Parce qu'ils avaient des problèmes, ils étaient malades, ils souffraient. « Seigneur, je t'en prie, mais reviens maintenant. » Par contre, quelqu'un qui vient de gagner le gros lot, de se marier, d'acheter une maison, ou j'en sais rien, d'avoir une promotion, ou de partir en voyage, une belle croisière, en général, il dit « Tu ne peux pas revenir juste après, si tu devais revenir rapidement. » C'est bizarre. Hein ? Il peut revenir n'importe quand. Et c'est important pour nous de travailler et de croire et de servir dans cette dimension-là. Faut-il vous rappeler que notre témoignage, le témoignage que nous rendons, c'est quand même un service, entre guillemets, dans l'ombre, à 90%. on n'est pas toujours dans la lumière. Hein. Et trois quarts de ce que les gens retiendront de nous, ce n'est pas forcément ce qu'on leur a dit, mais c'est ce qu'ils auront entendu dire. Ce n'est pas forcément ce qu'ils auront vu, mais ce qu'ils auront aperçu simplement, ou cette espèce d'impression qu'on leur aura laissée quand on ne sera plus là, quand on sera parti. Quelquefois, on n'apprécie pas les voisins qu'on a, et c'est quand ils partent et que d'autres arrivent qu'on apprécie les voisins qu'on avait. Ah, avant, c'était bien, parce que maintenant, oulala. Sauf qu'on ne leur a jamais dit, parce qu'ils étaient bien. On n'y a pas pensé, on s'est dit c'est normal. Notre témoignage est forcément quelque chose d'important. Il n'y a pas beaucoup de retours, il n'y a pas beaucoup d'honneur, il n'y a pas beaucoup de félicitations. C'est un travail dans l'ombre. Mais c'est à ça qu'on a été appelés, frères et sœurs. On a été appelés à ça. Alors, vous n'êtes pas décideur pour Dieu, hein. Personne ne le sait, sauf le Père seul. Ce n'est pas vous qui déciderez quand est-ce qu'il va revenir. Vous n'êtes pas décideur à la place de Dieu, mais sachez que Dieu n'est pas décideur à votre place. Si vous ne voulez pas l'attendre tous les jours, il vous laissera. Si vous ne voulez pas espérer en son retour tous les jours, il vous laissera agir à votre guise. Il ne décidera pas pour vous, il ne va pas vous faire faire des cauchemars pour que vous y pensiez tous les jours. C'est à vous de choisir. C'est à nous de choisir, mais je pense que notre attitude parle pour nous, bien évidemment. Quand avez-vous pensé sérieusement, s'il venait aujourd'hui, est-ce que je serais heureux, satisfait, frustré, j'ai pas fait tout ce que je devais faire, angoissé, comment ça va se passer, voire inquiet ou tout excité, comment seriez-vous? Là, c'est le quiz de la semaine. Je vous répète, notez-le. S'il devait revenir aujourd'hui, comment serais-je? Heureux, joyeux, excité, satisfait, frustré, angoissé, inquiet? Répondez pour vous-même à cette question. Mais le retour du Seigneur est quelque chose de tellement important. On devrait y penser tous les jours, évidemment, et très, très, très souvent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est un événement planétaire, déjà. C'est une évidence. Et on a lu les textes qui rendent témoignage de ça. Ça va être un enlèvement. Mais un enlèvement consenti, ça c'est rare. Hein. Un enlèvement consenti. Enlevez-moi. Ça c'est rare hein, d'entendre quelqu'un dire ça. Donc là, c'est un enlèvement, mais c'est volontaire. C'est-à-dire qu'on aspire à cet enlèvement. Et c'est un enlèvement littéralement. C'est-à-dire que ça va s'en aller vers là-haut, hein, vers le ciel. Hein. Un enlèvement, littéralement. C'est quelque chose d'assez phénoménal parce que c'est planétaire. Ça va se passer au même moment, au même instant, sur la Terre tout entière. Sur la Terre toute entière. Il va y avoir un signal. On l'a lu ensemble. Une trompette va sonner, la trompette de Dieu. Elle va sonner, elle va retentir. Et immédiatement, tous les chrétiens qui sont déjà morts, c'est pas vous, hein, tous les chrétiens qui sont déjà morts, en une fraction de seconde, ils ressuscitent. Et ils partent dans cet enlèvement à la rencontre du Seigneur. Et j'ai presque envie de dire au même moment, ça se joue au millième, millionième de seconde, certainement. Hein. Tout de suite, à ce moment-là, les chrétiens également, vivants, seront changés sans passer par la mort. Vous avez des références bibliques, 1 Corinthiens 15, Apocalypse 20, Jean chapitre 5 également. J'ai toutes ces références pour vous si vous voulez. Tous, à partir du moment où ils ressuscitent, où ils sont transformés, on ressuscite si on est mort, sinon on est changé, ils ont un nouveau corps, incorruptible, on l'a vu, spirituel. Alors la grande question qui agite toujours les consciences, est-ce qu'on va se reconnaître au ciel ? Permettez-moi de ne pas répondre, parce que j'en suis pas sûr. J'en suis pas persuadé. Parce que si vous reconnaissez tout le monde au ciel, vous allez reconnaître ceux qui y sont pas aussi. Et comment vous allez gérer ça? Savoir que vos enfants sont en enfer, en train de passer des tourments, et sachant que vos conjoints sont pas là, sachant que vos parents sont pas là, etc. Bref, je ferme ma parenthèse. Pensez-y, réfléchissez. Le fait est qu'on devient un corps spirituel. C'est d'ailleurs la seule raison qui permet de s'en aller aussi, hein. Forcément, hein, ce pouvoir attractif et pas naturel. Vous avez remarqué qu'en général, si vous êtes sur un tabouret et que vous vous jetez en l'air, vous ne montez pas, vous descendez. Vous avez remarqué, hein, vous tombez. Hein. hop, on s'en va pas. Hein. Sauf si vous êtes dans l'avion zéro, là. Celui qui fait faire de la pesanteur. Là. Mais sinon, normalement, vous retombez. Donc, tout le monde aura un nouveau corps. En un instant, en un clin d'œil, je me suis laissé dire que le muscle le plus rapide du corps humain était dans la paupière. Ouais. Quand vous faites un clin d'œil, c'est très rapide. Hein. C'est le muscle le plus rapide du corps humain. Peut-être pas pour rien que c'est dit comme ça en tous les cas. L'enlèvement en un clin d'œil. Le temps de le dire, puis c'est fini. On n'est plus là. Enfin, j'espère que vous n'êtes plus là. Hein. Sinon, vous restez sans moi. Hein. On ne sera plus là, on part. C'est ça, l'enlèvement. C'est quand même assez incroyable. Alors, il y a des conditions pour cet enlèvement, bien évidemment. J'ai pas tout sur ma diapo. En un instant, en un clin d'œil. Il y a des conditions. Romains, chapitre 11. J'aimerais lire ce passage pour vous. Romains, chapitre 11. Et verset 25. Romains, chapitre 11, verset 25, épître de Paul aux Romains. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. » En fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est parce que ceux qui doivent rejoindre par la foi cette épouse qu'est l'Église ne sont toujours pas là, par endurcissement, par incrédulité, par ignorance. C'est pour cela qu'on attend toujours et c'est pour cela qu'on est toujours là. Mais qui pourra dire que le ciel est plein, que le nombre est atteint ? Il n'y a que Dieu qui dira cela. Et ce n'est pas Dieu, entre parenthèses, qui choisit qui ira au ciel ou qui n'ira pas, mais c'est vous qui choisissez si vous voulez aller au ciel ou pas. Dieu vous offre la possibilité d'y aller. Ce ne sera pas à n'importe quel prix. On a lu tout à l'heure en introduction dans le texte des Corinthiens que tout ce qui est impur, tout ce qui est souillé n'ira pas au ciel. Donc avant d'avoir envie d'aller au ciel, il faut se repentir de ses péchés, demander pardon à Dieu pour ses fautes et qu'il purifie votre cœur. Donc il y a des conditions. Et nous sommes, malgré tout, encouragés à précipiter ce jour. L'apôtre Pierre dit précisément « Attendez le retour du Seigneur, mais hâtez-le également. » Et quelque part, quand des hommes vont aux extrémités de la terre annoncer l'Évangile à ceux qui l'ont jamais entendu, ben ils hâtent à leur façon le retour de Jésus, parce que voilà des personnes qui auront entendu et qui auront pu choisir. Est-ce qu'elles veulent ou est-ce qu'elles ne veulent pas ? Ça signifie, en d'autres termes, que puisque cet événement va arriver d'une manière aussi rapide, vous comprenez que quand Jésus va revenir, au moment où vous allez, où le monde va entendre la trompette, il ne sera pas temps de dire « Bon, ça y est, je me décide, je veux me faire baptiser, je veux m'engager avec Dieu, parce que je veux partir. Hein. » Ce sera trop tard. Ça va être trop bref. Ça va être trop rapide. Il ne sera plus le temps de dire « Ouh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Vite, vite, je me repens de mes fautes, parce que je veux partir aussi. » Ce sera trop tard. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, c'est très paradoxal, il faut se préparer tout en étant prêt. Se préparer à être prêt. Se préparer, mais déjà être prêt. Et il faut être prêt et continuer à se préparer pour être prêt. C'est difficile à comprendre. Il faut reconnaître, hein. Mais la vérité, c'est ça. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma sœur, si Jésus revenait maintenant ? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu ? Est-ce que tu es en paix avec Dieu ? Est-ce que ta vie est en règle devant Dieu ? Est-ce que tu as bien mis tout à plat devant Dieu ? Et est-ce que tu ne doutes pas une seule seconde ? C'est ça, être prêt. Et après tous les jours, eh bien, on perfectionne, on travaille à cette œuvre de grâce et de salut et on veut continuer ainsi à se préparer. Maintenant, qu'est-ce qui vous attend après ? Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Voilà. L'enlèvement de l'Église. L'Église s'en va. Les croyants ressuscitent. Donc toute l'Église depuis le début de l'ère chrétienne et tous ceux qui se sont attachés à espérer en Dieu sont partis. Ils sont plus là. Mais sur terre, la vie continue. Et dans le ciel, la vie continue aussi, de toutes les manières. Sur terre, la vie continue, mais ça va être un temps terrible, un temps de tribulation. va y avoir de grandes souffrances. L'apparition et on va dire l'apparition grand public de l'Antéchrist. Et puis ça se terminera tout ça par un terrible conflit mondial, la bataille d'Armageddon en Israël, dans la vallée de Jisréel, pas loin de Megiddo. Il y a une plaine immense. On dit d'ailleurs que quand Napoléon, qui a visité Israël, a vu cette plaine, et il a dit « c'est un champ de bataille fabuleux ». Lui, il était stratège. Donc, au départ, et on voit les choses arriver, il y a un conflit quand même Occident-Orient. Regardez aujourd'hui. Regardez les terres de conflit. Ce ne sont pas qu'en Orient, mais il y a une confrontation entre l'Occident et l'Orient. Et ça va être de pire en pire. Sauf qu'à un moment donné, tout le monde se retournera contre Israël. Tout le monde fera la guerre à Israël, parce qu'Israël, c'est le nœud, c'est le carrefour. C'est le carrefour de tous les continents. Et c'est bien là que tout a démarré, c'est là que tout va s'arrêter, c'est là que tout va se terminer. Et c'est à ce moment-là, lors de cette grande bataille d'Armageddon, que Jésus viendra poser son pied sur la montagne des Oliviers et arrêter ce conflit épouvantable, ce conflit mondial. Il viendra mettre un terme et il donnera la victoire à Israël. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, les Juifs reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Zacharie le dit. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Maintenant, vous comprenez que sur la terre, il va y avoir tous ceux qui ne seront pas partis. Mais je crains qu'il reste aussi tous ceux qui pouvaient partir et qui n'ont pas voulu partir. Vous savez, ceux qui ont entendu l'Évangile, ceux qui ont méprisé l'Évangile, ceux qui l'ont rejeté, ce qu'on appelle les rétrogrades, ceux qui s'en sont écartés. Parce que quand il va se passer cet événement d'enlèvement de l'Église, il y a des gens qui ne vont absolument pas comprendre ce qui se passe. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sauront ce qui s'est passé. Et alors là, grande détresse, grand tourment. Et je pense que dans un monde qui va prôner tout ce qui est anti-Dieu, mais si quelqu'un veut marcher avec Dieu, parce que ces gens-là voudront quand même rester attachés à Dieu, ça va être pour beaucoup au péril de leur vie. On va les massacrer, on va les tuer. Voilà. Parce qu'ils ne voudront pas renier. Il y a, vous l'avez certainement lu dans l'Apocalypse, mais c'est trop court ce matin pour tout détailler, cette fameuse marque de la bête, le fameux 666, ça existe. Il va y avoir quelque chose. Mais quand on voit la technologie aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on achète sans rien maintenant. Dans certains endroits du monde, certains se sont fait installer une puce, une petite puce, pour entrer dans des bars sélects, etc. Et vous payez avec ça. Il y a eu le Monéo, mais il y a eu autre chose maintenant qui est en train de se développer. Et on arrivera même pour des données sécuritaires, cartes de sécu, etc. On va informatiser. Et on va même vous mettre une petite puce, comme ça, vous avez un accident de la route, on ne sait pas qui vous êtes inconscient, on vous bipe et on connaît tout. Votre profil, on sait que vous êtes groupe A+, etc., si ça existe. Et vous avez besoin d'une transfusion, on vous la fait immédiatement. On va sauver des vies, comme ça. C'est un avenir heureux. Hein. C'est le monde de la technologie. Et qui résistera ? Qui fera contre ça ? Pas évident, hein ? C'est pas évident. Bref, voilà tout ce qui va se passer sur la terre, ça va être compliqué. Tandis que dans le ciel, il va y avoir une célébration extraordinaire, c'est ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. L'épouse, l'Église, va être unie à Jésus-Christ. C'est l'époux bien-aimé, l'Église, c'est l'épouse. Et la Bible dit qu'il va y avoir des vins clarifiés, il va y avoir des mets succulents, ça va être extraordinaire, hein ? Ça vous met pas l'eau à la bouche, ça ? Là, ça va être bien. Hein. Et puis, après que on soit arrivé au terme de cette bataille d'Armageddon, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la Bible dit que Jésus va prendre le diable et il va le lier pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas que les chrétiens qui utilisent le mot millénium. Hein. Même Microsoft l'avait utilisé à un moment donné. Il y a des films, Millennium, etc. Donc on en parle. Hein. Mais ça rentre dans... Ça se vulgarise quand même. Ça rentre dans le langage commun. Le Millennium, ça veut dire que pendant 1000 ans, sur la Terre, celle-là, cette Terre, il va régner la paix, puisque le diable n'est plus là. Forcément, il va régner la paix. Ça ne veut pas dire que les hommes auront été transformés, changés. Hein. Ils auront toujours cette espèce de nature mauvaise, méchante. Sauf que quand quelqu'un voudra faire un mauvais coup... La Bible dit que la justice s'exercera avec une main de fer. Et certains pécheurs mourront, beaucoup plus âgés. On dira que celui qui mourra à 100 ans mourra jeune, vous imaginez ? On aura vaincu pas mal de fléaux, de maladies, de douleurs, etc. Donc ça va être un temps extraordinaire pendant 1000 ans. Vous, vous ne serez pas sur la terre, hein, parce que si vous êtes parti, ce n'est pas pour revenir. Sauf que, il y a un texte dans les évangiles étonnant où il est parlé d'un maître qui confie à ses serviteurs des talents. Et à l'un, il a confié 5 talents, il en a rapporté 5 autres. À un autre, il en a donné 2, c'est de l'argent, hein, de la monnaie, et il en a récupéré le double. Et à un troisième, il n'a absolument rien rapporté, il a caché cet argent, il a rendu à son maître. Bref, il était paresseux, il sera jugé. Tandis que les 2 autres ont fait valoir ce qu'ils avaient. Et à un moment donné, Jésus dira, « Tu recevras le gouvernement de 10 villes. » Et certains se sont interrogés si, à ce moment-là, pendant ce millénium, avec Christ, l'Église ne régnerait pas, en quelque sorte, sur la terre. Il y a de fortes probabilités que ce soit ça, et que finalement, vous soyez appelés à régner, vous aussi. Vous imaginez un peu ? Héritier, vous allez régner, formidable. Et puis, une fois que les 1000 ans vont être accomplis, eh bien, le diable va être relâché. Et puis, chose invraisemblable, il va encore séduire des hommes, il va encore séduire des humains. Et tout de suite après, Dieu dit « Stop, c'est le jugement dernier. » Le diable est jeté en enfer avec le faux prophète, avec tous ces anges, ces démons, ces anges déchus. Et tous ceux au jugement dernier, tous ceux qui n'ont pas cru, iront pour l'éternité en enfer. Tous ceux qui n'ont pas cru iront pour l'éternité en enfer. Je m'intéresse d'abord à cette première période. Vous serez où, vous ? Sur la terre ou dans le ciel ? Posez-vous la question sérieusement. Vous serez où ? Je souhaite que vous soyez au ciel, hein, déjà, parce que vous serez parti avec l'enlèvement de l'Église. Hein. Si vous n'êtes pas parti, ça veut dire que vous n'avez pas cru, ça veut dire que vous n'avez pas attendu, vous n'avez pas espéré. Les vierges folles qui sont arrivées trop tard à la noce, elles n'avaient plus d'huile. Sont arrivées trop tard, la porte était fermée. Elles ont frappé à la porte, « Ouvrez-nous, c'est nous, vous ne nous reconnaissez pas. » Et de l'intérieur, on leur dira, « C'est trop tard. » C'est trop tard. Fallait venir avant. Vaut mieux être en avance qu'en retard. Hein. Mais vaut mieux être à l'heure, c'est bien. Ce sera déjà bien. Plaise à Dieu qu'aucun de nous n'arrive trop tard, bien évidemment. Alors voilà ce qui vous attendra après. Pendant un temps, nous aurons... L'Église aura certainement un rôle d'administration, mais la finalité, c'est que la terre, le ciel, tel qu'on connaît là maintenant, tout ça va disparaître. Apocalypse, tout ça va disparaître. Et il y aura de nouveaux cieux et il y aura une nouvelle terre. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça veut dire autre chose, autre chose. Et vous êtes appelés à adorer au siècle des siècles. Apocalypse, chapitre 1er, verset 6, « À celui qui nous aime et qui a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire au siècle des siècles. » Nous sommes appelés à le servir pour toujours. Nous sommes appelés à être à lui pour toujours. Alors souvenez-vous de cela et gardez ceci à l'esprit. Le ciel, ça reste notre avenir. Le ciel doit rester notre objectif. Et le ciel, c'est notre plénitude, c'est notre joie. Tant qu'on est là sur la terre, on veut l'honorer et quel que soit le vase que l'on représente, on veut que Dieu y mette ce qui convient à l'intérieur et que ce vase ne se brise pas, que ce vêtement ne se déchire pas, mais que notre vêtement du salut soit bien solide, bien accroché et qu'on puisse se réjouir. Alors on comprend mieux ce qu'il est dit à la fin de l'Apocalypse, tout à la fin, quand l'Esprit et l'épouse et l'Église disent « Viens, viens, Seigneur Jésus !» Et qu'à la fin, on revienne sur ces paroles, Jésus lui-même qui dira « Oui, je viens bientôt !» Et comme un écho de la terre, l'Église qui dit « Amen, viens, Seigneur Jésus !» J'ai envie de dire « Viens, Seigneur Jésus, ce matin !» Quand je vois Halloween, quand je vois cette volonté de toujours s'enfoncer dans ce qui est froid, dans ce qui est obscur, dans ce qui est mortel. Moi, je voudrais plutôt m'en aller vers ce qui est vivant, vers la vie, vers ce qui est lumineux, vers ce qui est clair, vers ce qui est évident, vers ce qui est limpide. Et la seule vérité dans ce monde qui mérite d'être soulignée, c'est que Jésus vient bientôt. Et parce qu'il vient bientôt, le meilleur est à venir. Et parce qu'il vient bientôt, le temps presse. Et parce qu'il vient bientôt, nous voulons redoubler dans la prière, redoubler d'efforts dans notre témoignage, redoubler de volonté dans notre énergie à offrir notre vie en sacrifice vivant pour l'Éternel, c'est-à-dire à être un témoin. Et si quelqu'un réclame de nous, et si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre avec lui, 1 mile, fais-en 2 avec lui. Et si quelqu'un réclame ton manteau, donne-le lui. La charité, le témoignage chrétien, être comme Dieu le veut. Y pensez-vous souvent au retour du Seigneur? Si vous y pensez souvent, alors certainement que ça vous mobilise et ça vous motive bien souvent. Vous avez vu ce qui va se passer? En un instant, en un clin d'œil, ce ne sera plus le temps de réfléchir à ce moment-là. Où serez-vous? Est-ce que vous serez sur la terre ou au ciel? Plaise à Dieu que vous soyez au ciel. Au jugement dernier, ceux qui n'ont pas cru iront en enfer, même s'ils ont vécu une belle vie. Vous savez, il y a des gens, ils ne sont pas méchants, hein. Ils ne veulent juste pas de Dieu. Mais ils ne sont pas méchants. Ils ne veulent pas de Dieu. Ils n'y croient pas. Et vous croyez que Dieu va leur faire supporter sa présence toute l'éternité? Ils n'en veulent pas. Ce sera l'enfer. Hein. Il n'y a pas de situation intermédiaire. Hein. Ce sera l'enfer. Après, pour vous chrétiens, on comparaîtrait devant le tribunal de Christ. Et là, vous recevrez des récompenses, couronne de vie, couronne de gloire, couronne de justice. Tout cela nous est réservé. Et quel privilège nous avons de pouvoir et de savoir aujourd'hui que notre avenir est assuré. Amen. Savons où nous en allons, où nous nous en allons, alors que Dieu nous donne de pouvoir l'honorer, de servir et d'avertir. À notre niveau, sonner de la trompette, ce n'est pas celle de Dieu, mais elle peut être retentissante. Sonnez de la trompette et dites autour de vous, le temps du jugement arrive, mais c'est le temps de la grâce aujourd'hui. Et ne soyez pas perdus, soyez sauvés. Amen. On se lève ensemble et on invoque Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta bienveillance. Merci pour ton secours, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Je te loue et je te bénis pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras encore. Je veux te remercier parce que tu as agi d'une manière belle, d'une manière parfaite, et je veux te rendre grâce pour tout cela. Ma prière, c'est que tu donnes à quelqu'un l'assurance de son salut s'il ne l'avait pas ce matin. C'est que tu donnes à quelqu'un la paix. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir quant au lendemain. Il n'y a pas d'incertitude quant au lendemain. Il n'y a que la paix que tu donnes. Alors apporte la paix maintenant et glorifie-toi, je t'en prie, dans le nom de Jésus. Raccompagne-nous dans ta paix, oui Seigneur, en espérant ton retour. Et si tu tardais et que l'on devait se retrouver tout à l'heure, bénis ce temps d'évangélisation. Bénis ce temps où ta parole sera prêchée encore et fais un grand bien à ceux qui l'entendront, je t'en prie, pour la gloire de ton nom. Amen.